Mehdi Ahin, Karima, Matin Femme.
Et nous sommes en direct avec le docteur Atmane Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique, pour parler donc aujourd'hui du trouble de la personnalité antisociale. Docteur Atmane Lorabi, bonjour, ravi de vous retrouver dans Matin Famille aujourd'hui.
Bonjour Karima, tout le plaisir est pour moi.
Alors docteur, quand on parle de trouble de la personnalité antisociale, déjà ça veut dire quoi au juste ?
Alors, pour aller directement à la définition, bon, comme tout trouble de la personnalité, on en parle à l'âge adulte, à partir de l'âge adulte, où en fait, c'est un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui. Et ça, la définition de la personnalité antisociale qui va comporter, si vous voulez, plusieurs manifestations possibles, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, antisocial, c'est l'incapacité à se conformer aux normes sociales, notamment sur le plan légal, hein, c'est-à-dire avoir des comportements qui sont susceptibles d'amener à des ennuis avec la justice, des arrestations, etc. C'est la tendance très forte à la tromperie. Et quand je parle de tromperie, on parle d'escroquerie, d'arnaque, d'utilisation de pseudonymes. Et je ne parle pas de pseudonymes sur des réseaux sociaux, non, je parle de pseudonymes dans la vie réelle. Ça fait partie des critères qui amènent à la définition. Il y a aussi une grande dimension d'impulsivité et d'agressivité qui va se traduire le plus souvent par des bagarres, par des violences physiques. Il y a la notion de mépris inconsidéré pour la sécurité de soi-même et des autres. Mmh. Ça aussi, donc, on va avoir des comportements de mise en danger à répétition. Et il y a aussi la dimension, si vous voulez, d'absence de remords. Hein. C'est-à-dire que la personne, réellement, n'éprouve pas, ne ressent pas de remords. Alors, ça, c'est vraiment la définition, ou plutôt les critères qu'on retient pour la définition de la personnalité antisociale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'une trajectoire qui commence le plus souvent dans l'enfance. Hein, c'est-à-dire que quand on parle de personnalité antisociale, trouble de la personnalité antisociale, on est obligé de parler également de ce qu'on appelle trouble des conduites, qui est un diagnostic plutôt de pédopsychiatrie, parce que c'est quelque chose chez les enfants. Et à quoi ça correspond, ces troubles des conduites? C'est le fait qu'il y ait des agressions répétées envers des personnes ou des animaux. C'est le fait de détruire les biens matériels d'autrui par l'utilisation de feu, des choses comme ça. C'est le fait d'être dans le vol, hein, des vols à répéter, enfin des vols qui se produisent, et les violations graves des règles établi notamment dans le cadre scolaire, dans le cadre familial, le cadre social de manière générale. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate dès l'enfance, qui se construit petit à petit, qui va s'aggraver le plus souvent pendant l'adolescence, et justement, pour mener à ce qu'on appelle le trouble de la personnalité antisociale, qu'on a le droit d'évoquer qu'à partir de l'âge de 18 ans, hein, justement, et donner ce tableau-là qui, le plus souvent, il faut le dire, provoque une profonde détresse. Alors, souvent pas de la personne, hein, je dirais même jamais de la personne qui présente le trouble, mais surtout de son entourage familial principalement et amical, bon, qui va s'amenuiser. Mmh. Il convient aussi de préciser pour ce trouble de la personnalité, c'est que ce n'est pas quelque chose de très rare, hein. C'est, d'après les études de prévalence, on est autour de 2 à 5 %. C'est-à-dire, voilà, c'est pas quelque chose de rare. Bien sûr, il y a des degrés, des intensités, des sévérités, comme toujours. Et ce qu'il convient aussi de noter, c'est que c'est prépondérant chez les garçons, chez les hommes. Beaucoup plus que chez la femme, pour des raisons qu'on ne connaît pas forcément.
Donc ça se manifeste finalement au fur et à mesure. Voilà, si ça commence à partir de l'enfance, ça se développe plus à l'adolescence, et c'est une fois qu'à l'âge adulte qu'on peut justement dire que c'est un trouble de la personnalité antisociale.
Absolument. Une fois qu'on est à l'âge adulte et qu'il y a la persistance des critères que j'ai énoncés, notamment le fait de se mettre en danger, le fait de d'être incapable de se conformer aux normes sociales et aux normes légales, etc. Donc, en fait, en d'autres termes, ça va se traduire par des comportements de délinquance. Voire quelquefois des comportements franchement criminels. Et c'est ce qui fait la particularité de la personnalité antisociale, c'est qu'on est au croisement de plusieurs champs. Il n'y a pas que la psychiatrie, il y a le judiciaire, il y a la sociologie, il y a même une dimension philosophique si on veut. Mais voilà, c'est une... Et malheureusement, assez souvent, les personnes qui ont ce genre de troubles de personnalité antisociale vont souvent avoir affaire au système judiciaire, avec très souvent aussi des incarcérations. Et c'est ce qui soulève aussi la question de la continuité des soins, mais ça, c'est notre sujet. Mais voilà, c'est. Et puis, pour parler de causes, parce que c'est souvent, quand on discute, vous et moi, on évoque les causes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une part génétique assez importante. Les études. Grosso modo, les études pour rechercher les facteurs de risque ont démontré en fait qu'il y a deux éléments qui reviennent souvent. Il y a l'hérédité, donc c'est le fait d'avoir notamment des ascendants, etc., qui ont ce genre de troubles. Et il y a aussi une autre dimension qui est très importante au-delà de la biologie, c'est le fait de vivre des abus pendant l'enfance. Quand je parle d'abus, c'est principalement les violences physiques, les mauvais traitements, etc. Donc ça, ce sont les deux éléments qui reviennent très souvent, ou je dirais, enfin, c'est les seuls éléments significatifs qui sont associés au risque de développer au fur et à mesure qu'on grandit ce trouble de la personnalité antisociale.
Et docteur, est-ce que c'est en quelque sorte un trouble à part entière ou est-ce qu'il peut être un symptôme aussi d'autre chose ?
Alors, si on parle de définition stricte, comme toujours dans les définitions, il y a toujours des critères d'exclusion. On sait que on peut avoir des manifestations qui ressemblent beaucoup à ce trouble de la personnalité, au décours, par exemple, d'accès maniaque dans un trouble bipolaire, ou quelquefois, enfin, il y a des formes de schizophrénie qui vont se manifester par des conduites comme ça antisociales, voire franchement psychopathiques. Mais là, on ne parle pas de trouble de la personnalité antisociale. C'est un autre diagnostic. C'est vrai que ça fait partie qu'on appelle du diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il convient de chercher quand on a des manifestations de cet ordre-là. Il y a d'autres troubles de la personnalité également qu'il faut éliminer, notamment le trouble de la personnalité narcissique. Il y a des éléments qui peuvent, notamment la question de l'irresponsabilité et du mépris envers autrui, qui sont aussi dans le trouble de la personnalité narcissique. Et puis, à travers la dimension de mise en danger et d'intolérance à la frustration et d'agressivité, d'impulsivité, on peut également quelquefois avoir des diagnostics différentiels avec le trouble de la personnalité borderline. Et assez souvent, en fait, quand on parle de trouble de la personnalité, on ne va pas avoir un seul item. On va avoir l'enchevêtrement de deux troubles de la personnalité, par exemple.
D'accord.
On peut avoir un trouble de la personnalité avec des tendances antisociales. Un trouble borderline, je veux dire, avec des tendances antisociales. Donc, c'est ça le tableau le plus fréquemment retrouvé, tout en sachant que, et parce qu'il faut parler de comorbidité, parce que c'est un élément très important, très souvent, on a des éléments de toxicomanie. Très, très souvent, c'est associé. C'est associé à ce trouble de personnalité antisociale. Et là, bon, c'est une autre question en termes de prise en charge, même en termes de réflexion, parce qu'on sait que les toxicomanies graves peuvent aboutir à finalement des comportements qui peuvent cocher les cases du trouble de la personnalité antisociale. Donc c'est toujours une problématique complexe où il y a d'autres comorbidités qui sont là, d'autres enjeux, et qu'il faut essayer de prendre dans sa globalité, et surtout qu'il y a réellement une vraie souffrance des familles, des membres de la famille, notamment de la fratrie, des parents, parce que assez souvent, ils ont un rôle de suppléance, c'est-à-dire à travers la dimension irresponsabilité, souvent c'est eux qui vont prendre les responsabilités financières de leurs parents qui se trouvent de la personnalité. Quand il s'agira de faire face à des conséquences judiciaires. C'est très souvent eux qui vont mettre en œuvre tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour essayer d'amenuiser les sanctions, etc. Donc, c'est très, très, très souvent compliqué pour les familles.
Et justement, en parlant de prise en charge et de famille, docteur Atman Lorabi, quel genre de traitement ou d'accompagnement y a à proposer justement pour les personnes qui souffrent de ce trouble de la personnalité antisociale? Et est-ce que justement l'entourage doit jouer un rôle particulier pour orienter peut-être une personne qui souffre de ce trouble?
En fait, il n'y a pas de technique de psychothérapie qui montre une supériorité par rapport à une autre. Mais ce qui est important, c'est d'être dans l'accompagnement et, dès l'enfance, essayer de beaucoup miser sur l'intelligence de la personne, du petit patient, pour être dans une démarche où, finalement, on va être plutôt dans la pédagogie, pédagogie des comportements à adopter, les normes sociales, l'intérêt pour soi de s'y conformer, etc. Ça, c'est un accompagnement possible, mais comme je vous disais, ça dépend énormément du degré de motivation, du degré d'intelligence de la personne, etc. Donc, là, tout ça pour dire que l'accompagnement psychothérapique peut avoir sa place, mais surtout s'il est mis en place précocement, dès le début. L'autre point, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi un accompagnement de la famille. Ouais. Un accompagnement de la famille, justement, parce que dans cette démarche un petit peu pédagogique, quelquefois, il faut laisser l'enfant face à ses responsabilités, notamment quand il y a des choses très graves qui se produisent. Et c'est assez délicat à amener quand on est face à une famille, mais ce sont des choses qui peuvent se concevoir après une bonne réflexion et une bonne évaluation du bénéfice et du risque de ce genre de manœuvre. Mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a cet accompagnement qui est vraiment nécessaire pour les familles également. Et puis quand il y a des troubles très très graves, notamment avec des agressions répétées dans le milieu familial, etc., assez souvent on peut avoir recours à des médicaments qui vont diminuer l'impulsivité, justement pour essayer de réduire un maximum la dimension agressivité, violence physique.
Docteur Atman Lorabi, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, on se retrouve mardi prochain, Inch'Allah.
Avec plaisir, Inch'Allah. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.